Notre Dieu, merci de nous réunir ce matin. Sans toi, notre rassemblement serait vain. Alors merci d'être présent par ton esprit. Merci de nous accueillir chacune et chacun tel que nous sommes. Et que ce temps nous conduise à mieux te connaître, pour mieux t'aimer. Sois aussi, Seigneur, auprès de nos frères et sœurs malades ou retenus par l'âge avancé. Et nous te remercions pour tous nos frères et sœurs sur la terre entière qui te donnent gloire aujourd'hui, selon leur culture et leur sensibilité. Que ton règne avance aujourd'hui, au nom et pour la gloire de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci. Nous voulons prier. Merci Seigneur d'avoir conduit et inspiré Priscille dans sa préparation. Merci de la soutenir maintenant qu'elle nous parle, et merci de t'adresser à chacune et à chacun d'entre nous. Aide-nous à t'écouter et à recevoir ta parole pour ta gloire. Amen.
Aujourd'hui, on continue dans notre série sur le livre des Actes. Acte de Dieu, acte des hommes, une mission qui grandit. Et puis, alors qu'on avait vu les œuvres incroyables de l'Esprit se déverser dans la première église de Jérusalem, il y a comme un chapitre, comme une pomme pourrie qui arrive au beau milieu de tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai la tâche difficile de vous parler de cette pomme pourrie. J'aimerais lire dans Acte 4, versets 32 à 37. Et tout commence bien. Il y a une église qui loue Dieu, et cette église, quand elle loue Dieu, elle pense chaque mot qu'elle prononce. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposait aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors on fait un peu une pause. On est dans une période extraordinaire. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Les croyants vivent une réalité absolument incroyable. Ils sont complètement ouverts à l'action de l'Esprit Saint. Et cela se traduit par une vie de communauté intense. Cette vie de communauté, elle est caractérisée par une profonde générosité et une immense unité. Et c'est sur cette scène complètement idyllique qu'Ananias et Saphira débarquent. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, » répondit-elle, « c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Deux personnes apportent de l'argent, beaucoup d'argent, et ils tombent raide mort, foudroyés, sur place, pour avoir un petit peu arrangé la vérité sur la proportion exacte qu'ils donnaient à Dieu. Que peut bien nous apprendre cette histoire ? Alors, ah voilà, excusez-moi, pas facile à comprendre. Quand j'ai lu ce texte, il y a un verset qui a particulièrement retenu mon attention. C'est Pierre qui s'adresse à Ananias et qui lui dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Alors, dans cette première partie, nous nous intéressons à ce qu'est le cœur de l'homme. Et pour savoir ce qu'est le cœur de l'homme, dans la Bible, il nous faut faire un petit peu d'anthropologie biblique. Comment est-ce que Dieu définit l'homme? Et quel rôle son cœur joue-t-il là-dedans? Alors, premièrement, la Bible nous dit que c'est du cœur que viennent toutes nos décisions. Dans la Bible, le cœur, il est non seulement le siège de nos émotions, mais c'est avec le cœur qu'on comprend et c'est avec le cœur qu'on décide. Ananias et Saphira, ils ont fait un choix. Et ce choix, il émanait de quelque chose de bien plus profond que leur raisonnement, leur raisonnement intellectuel. Ce choix, il venait de leur cœur. Nous ne prenons jamais nos décisions avec notre tête uniquement. Nous réfléchissons en fonction de ce qu'il y a dans notre cœur. Aujourd'hui, on pourrait dire aussi qu'on réfléchit avec ce qu'on a dans les tripes. Alors, un exemple, un petit exemple pour vous l'illustrer. Si, quand mes enfants reviennent de l'école, le repas n'est pas prêt pour qu'ils puissent mettre les pieds sous la table, je peux être à peu près sûre qu'en dans les 20 secondes qui va suivre leur entrée, il y en a un d'eux qui va s'énerver. Et puis, si à ce moment-là, j'ai la bêtise de demander à cet enfant « c'était bien l'école ?», je peux être à peu près sûre que je vais entendre la réponse « c'était nul !». Mais je peux être aussi à peu près sûre que si, après que l'enfant ait mangé et qu'il se sente mieux, il va venir vers moi et puis il va me dire « mais tu sais, au fait, c'était bien l'école. C'était chouette, il s'est passé ça ou il s'est passé ci. » Notre manière de regarder à la vie, nos sentiments, nos décisions, nos choix viennent de ce qu'il y a dans notre cœur. J'en arrive à ma deuxième partie. Nous vivons dans une réalité qui dépasse ce que nous pouvons voir avec les yeux. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école. et ce n'est pas forcément évident pour nous de concevoir cela. Nous vivons dans une réalité qui n'est pas seulement physique, mais nous vivons dans une réalité qui est aussi spirituelle. Dans cette réalité spirituelle dans laquelle nous vivons, nous ne sommes pas des êtres indépendants. Notre cœur, on revient toujours à ce cœur, il est placé soit sous l'autorité de Satan, soit sous l'autorité de Dieu. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, regardons maintenant comment ces deux sphères d'autorité, elles se traduisent dans l'histoire d'Ananias et Saphira. Alors, les premiers chrétiens et Barnabas, ils sont placés sous l'autorité de Dieu. Et comment est-ce que cette réalité se traduit concrètement dans leur vie? Ils sont un cœur et une âme. Ils vivent l'unité entre eux. Ils vendent tout ce qu'ils ont et ils mettent tout en commun. Ils vivent la générosité. Et la puissance de l'Esprit-Saint est à l'œuvre dans leur communauté. Ils voient le royaume de Dieu qui grandit. Ces hommes et ces femmes sont placés sous l'autorité de Dieu et tout dans leur vie l'exprime. Tout dans leur style de vie exprime la confiance qu'ils font à Dieu. Tout dans leur vie exprime qu'ils ont placé leur sécurité en Dieu. Et Ananias et Saphira. Ben Ananias et Saphira, ils appartiennent à cette communauté des premiers chrétiens. Ils voient les gens qui donnent autour d'eux. Et il y a quelque chose de beau dans ces dons qui sont faits avec autant de liberté. Quelque chose qui leur donne envie de donner à leur tour. Mais assez rapidement, la joie est absente de leurs propres dons. Parce qu'il y a une fausse sécurité dans leur vie qui les empêche de donner aussi librement qu'ils voudraient. Une fausse sécurité dans la partie de l'argent qu'ils ont gardé pour eux. Une fausse sécurité dont ils ont honte et qu'ils dissimulent par un mensonge. Ananias, quelle est la raison pour laquelle Satan a rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Ananias et Saphira, ils se sont laissés entraîner comme à nouveau vers la sphère d'autorité où Satan règne. Satan, le maître qui trompe et qui asservit les hommes en les rendant captifs du mal. La honte, le mensonge, les fausses sécurités. Et le verdict sur le comportement d'Ananias et Saphira est radical. Ils tombent raide mort. Alors, est-ce qu'ils sont damnés à tout jamais? Est-ce qu'ils vont subir une condamnation éternelle? Je ne crois pas que ce soit du tout le propos de ce passage dans les Actes. Par contre, la communauté des premiers chrétiens était bouillonnante de la vie de l'Esprit. Et leur mort, elle exprime le sérieux de leur mensonge. Pas seulement un mensonge fait aux hommes, mais un mensonge adressé à l'Esprit-Saint. Et si dans l'Église de tous les temps, il y a toujours eu de la place pour des gens qui reconnaissent leur fausse sécurité, Dieu montre à quel point ne pas reconnaître ces fausses sécurités et ne pas vouloir l'admettre devant les autres, c'est quelque chose de sérieux. Il y a deux sphères d'autorité. Une sphère placée sous l'autorité de Satan. Une sphère placée sous l'autorité de Dieu. On a vu comment, avec Ananias et Saphira, on pouvait reglisser vers la sphère d'autorité qui est placée sous l'autorité de Satan. Mais il y a peut-être une question plus intéressante à nous poser. Deux questions plus intéressantes. C'est comment est-ce qu'on passe de la sphère sous l'autorité de Satan, placée sous l'autorité de Satan, à la sphère placée sous l'autorité de Dieu. Et comment éviter de reglisser? Alors, on s'intéresse maintenant à la première question. Comment passe-t-on de la sphère spirituelle qui est placée sous l'autorité de Satan à la sphère spirituelle qui est placée sous l'autorité de Christ? Ben, il n'y a qu'un seul moyen, et ce moyen, c'est Christ. Dans Colossiens, nous pouvons lire « Dieu nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé, bien aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. » Christ nous délivre. Il nous délivre de l'emprise de Satan qui avait autorité sur nos vies. Christ nous délivre de l'emprise du mal que Satan exerçait sur nos vies. Par sa vie donnée pour nous, il nous fait passer du royaume de la nuit au royaume de la lumière. Christ nous fait passer dans son royaume, placé sous son autorité. Et dans ce royaume, nous pouvons expérimenter une vie pleine de liberté et de joie. Une vie pleine de réconciliation et de paix. Une vie qui fait pleinement sens parce qu'elle nous rend à notre vocation d'homme et de femme créés pour être placés sous l'autorité de Dieu, en relation avec Dieu. Cette vocation d'homme et de femme que nous sommes, c'est une vocation qui consiste à transmettre la même liberté, la même joie, la même réconciliation, la même paix qui se trouve en Dieu. Et aujourd'hui, cette offre que Christ nous fait de venir nous placer sous son autorité, elle tient toujours. La croix qui est derrière moi, c'est l'offre de Christ qui a offert sa vie pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous placer sous son autorité spirituelle. Et c'est dans cette sphère spirituelle-là que se trouve la vraie liberté. Mais alors, deuxième question. Comment ne pas glisser à nouveau dans la sphère spirituelle placée sous l'autorité de Satan, ce royaume plein d'ombre? Et quand je pose cette question, je ne parle pas de perdre son salut. Je parle de vivre 80%, la moitié, le quart, un dixième des bénédictions que nous avons reçues quand nous sommes venus nous placer sous l'autorité de Dieu. Nous vivons dans un monde où Satan essaye de tout faire pour que, gentiment, nous glissions à nouveau vers son autorité. Nous sommes sauvés et nous avons placé nos vies sous l'autorité de celui seul qui peut nous rendre véritablement libres. Mais on peut rester prisonnier de bien des choses, tout comme Ananias et Saphira sont restés prisonniers de leur peur de manquer et de leur honte de reconnaître que cette peur les habitait. Alors, personnellement, je pense qu'une des raisons qui me rend particulièrement inconfortable avec cette histoire d'Ananias et Saphira, c'est que je ressens bien davantage à eux qu'aux autres. Dans ma manière de faire mes petits calculs, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je garde, je leur ressemble à eux. On l'a vu avec la communauté des premiers chrétiens. C'est des hommes et des femmes qui ont placé toute leur sécurité et leur confiance en Dieu. Et cela les a rendus complètement libres. Libres d'oser pleinement donner. Libres d'oser pleinement aimer. Tout comme Jésus s'est pleinement donné pour nous et nous a pleinement aimés. Et nous, est-ce que dans nos vies, il y a des choses qui viennent nous voler cette liberté de nous placer complètement sous l'autorité de Christ et de vivre pleinement cette confiance qui nous rend libres et qui nous apporte la joie dans nos vies. Ça peut être la colère, la critique, la médisance, la peur, le contrôle, l'orgueil, l'avarice, l'égoïsme, l'apitoiement sur soi et tellement d'autres choses encore. Que faire face à ces voleurs de liberté et de joie qui sont si vite présents dans nos vies? Et aujourd'hui, j'aimerais vous suggérer que résister à ces voleurs de liberté, ce n'est pas une histoire de plus lire sa Bible, plus venir à l'église, plus faire ci ou plus faire ça. Mais c'est reconnaître à quelle sphère spirituelle nous appartenons. Et c'est agir en fonction de ça. Par le sang de Christ, nous avons été placés sous l'autorité de Dieu. Et non seulement nous sommes placés sous son autorité, mais nous sommes aussi revêtus de son autorité pour ne pas glisser à nouveau, attirés par tous ces voleurs de liberté que j'ai cités avant. Dans 1 Jean 4, au verset 4, je vous lis. « Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu, vous avez la victoire, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. » Satan, l'auteur du mal, de la tromperie, cherche par toutes sortes de moyens de nous convaincre que Dieu n'est pas complètement digne de notre confiance. Et que nous faisons bien de nous accrocher à notre compte en banque, à notre amertume ou à notre apitoiement sur nous-mêmes. Mais en Dieu, nous avons la victoire et nous pouvons lui résister. Dans 1 Pierre 5, verset 9, Pierre écrit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Parce que nous nous sommes placés sous l'autorité de Christ, nous sommes revêtus de son autorité et nous pouvons résister à toutes ces choses dans nos vies qui essayent de nous voler cette liberté d'appartenir à Dieu et d'être ses enfants. Quand nous apprenons à exercer cette autorité que nous avons reçue, alors là, nous pouvons véritablement entrer dans notre destinée d'enfant de Dieu, libre d'aimer et libre de donner sans retenue, parce que nous savons que nous sommes à Dieu et que lui pourvoira. En tant qu'adolescente, j'étais marquée par toutes sortes de chrétiens, certains qui étaient très inspirants et d'autres qui étaient un peu moroses. Et puis on me disait, c'est pas sa faute, c'est un colérique de nature. Ou bien on me disait, ouais, celle-ci elle est très rigide, c'est ce qu'elle est, faut faire avec. Ou bien, ben celui-ci passe sa vie à se lamenter, c'est comme ça, on va pas le changer. Et je vous en ai déjà parlé, mais moi, là-dedans, je grandissais comme quelqu'un qui était dominé par un esprit critique et négatif assez prononcé. Bon, à ce moment-là, c'est pas comme ça que je me décrivais. Je me voyais comme quelqu'un de clairvoyant et réaliste. Mais ce qu'il y avait dans mon cœur, c'était du ressentiment, c'était de la jalousie, c'était de la peur, et il y avait aussi de l'orgueil. Et c'est sur cette belle base qu'il y avait dans mon cœur que je réfléchissais à la vie, que je regardais ma communauté et que j'agissais. J'avais laissé beaucoup de portes ouvertes à l'ennemi pour que je continue à vivre une vie misérable. Et à 30 ans, je n'en pouvais plus de ce que je voyais en moi. Et ça, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait son œuvre en moi. Je voulais expérimenter la liberté qui se trouve en Christ, mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas que je pouvais prendre autorité contre toutes ces ténèbres qui m'habitaient. Et puis un jour, aidée par la prière de Nicolas et par la prière d'autres amis, j'ai capitulé. J'ai dénoncé ce mal qui m'habitait. Je l'ai dénoncé pour ce qu'il était. Pas de la clairvoyance et du réalisme, mais beaucoup de ténèbres, de l'amertume, du ressentiment. Puis j'ai été aussi un pas plus loin. J'ai pris autorité sur toutes ces choses. J'ai dit, je n'en veux plus. Je n'en veux plus dans ma vie. Et j'ai invité l'Esprit de Dieu à venir m'habiter à la place. Et j'ai pu le faire parce que j'avais été revêtue de l'autorité de Christ. Et pour la première fois, j'ai exercé cette autorité que Dieu m'avait donnée sur ma vie. Et là, c'était incroyable. Il y a eu une joie immense qui m'a envahie. Beaucoup de liberté. Ce combat, je le fais encore régulièrement. Ça n'a pas été un acquis à tout jamais, mais il y a quelque chose de fort qui s'est passé à ce moment-là et quelque chose sur lequel je peux me baser pour continuer à mener ce combat contre ces voleurs de liberté. Chers amis, il y a quelques semaines, je vous ai encouragé à vous attendre à l'action de Dieu, à l'action de son Esprit dans vos vies. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à inviter cette action puissante dans vos vies en exerçant l'autorité dont vous avez été revêtus en Christ, en exerçant cette autorité contre tous les voleurs de liberté qui se trouvent dans vos vies. En Christ, vous avez été revêtus de puissance pour prendre autorité et pour lutter contre ce qui vous maintient captif. Vous n'êtes pas condamné à vivre dans l'angoisse ou dans le contrôle. Vous êtes revêtu d'autorité pour résister toujours davantage. Et vous avez des frères et sœurs qui vous entourent pour vous aider à apprendre comment exercer cette autorité dans vos vies. Vous avez une vie de communauté pour vous apprendre à rester dans cette liberté, à la proclamer dans vos vies. Alors peut-être que vous n'avez jamais fait ce pas de vous placer sous l'autorité de Christ. Peut-être c'est ce que vous désirez faire aujourd'hui. Ou bien alors peut-être que cela fait bien longtemps que vous avez pris cette décision de vous placer sous l'autorité de Christ, mais que vous n'avez pas expérimenté pleinement la joie et la liberté qui se trouvent en Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de davantage vous revêtir de la puissance de Christ, cette puissance qui vous remplit d'autorité contre tout ce qui vous maintient captif. Alors si c'est le cas, si aujourd'hui vous avez envie de prendre cette décision de vous placer sous son autorité, ou si aujourd'hui vous avez envie de prendre la décision d'exercer l'autorité qu'il vous a revêtue quand vous êtes venu vous placer sous lui, alors je vous invite à vous lever et puis je vais prier. Père, tu vois, nous sommes tellement reconnaissants comme nous t'avons loué ce matin. Quelle vie tu nous donnes. Quelle vie de joie, quelle vie de liberté. Et nous avons envie de te faire confiance toujours plus. Nous reconnaissons que nous sommes venus nous placer sous ton autorité. Mais nous reconnaissons aussi que nous l'avons souvent oublié. et que nous avons souvent oublié que tu nous avais revêtus dans ton autorité pour l'exercer dans nos vies. Et Père, ce que nous voulons te dire ce matin en communauté, c'est que nous avons envie de toujours entrer davantage dans cette liberté dont tu nous fais don. Et que nous voulons exercer cette autorité dans nos vies. Et nous encourager les uns les autres à rester dans cette liberté. Alors Esprit Saint, agis. Viens et agis dans nos vies. Et convainc-nous que tu es puissant et que tu nous rends libres par cette autorité qui se trouve en toi. Amen.